no, 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 no. I make it move faster.
Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Ravi de vous retrouver en ce lundi 29 janvier 2024. Jacques Aristide en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. À la une de l'actualité ce matin, le Burkina, le Mali et le Niger se retirent de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui se dit tout de même prête à une solution négociée.
Chapeau aux dirigeants pour ce cadeau du siècle que nous ont donné.
C'est une décision aujourd'hui qui pourrait exposer ces pays à des conséquences extrêmement graves.
Une messe pour la paix célébrée par l'église catholique de la RD Congo, du Rwanda et du Burundi à Goma. Un événement marqué toutefois par des affrontements autour de la ville. Trois militaires américains tués en Jordanie. Le président Joe Biden promet de répondre en pointant des groupes pro-Iran. Coupe d'Afrique des Nations de football, la Guinée et la RDC se qualifient à leur tour pour les quarts de finale. Eh bien oui, la CAN, le tournoi de foot africain, se poursuit en Côte d'Ivoire. La Guinée et la RD Congo se sont donc qualifiés hier pour les quarts de finale, rejoignant l'Angola et le Nigeria. Débuté samedi, les huitièmes continuent aujourd'hui. Direction Abidjan pour retrouver nos envoyés spéciaux Bagassi Koura et Yakuba Ouedraogo pour le journal de la CAN.
Bonjour à tous, deux matchs au programme. Le premier huitième de finale oppose l'impressionnant Cap Vert à la novice Mauritanie qui découvre ce stade de la compétition. Coup d'envoi 17h temps universel au stade Félix Houphouët-Boigny ici à Abidjan. Juste après à 20h temps universel, la ressuscitée Côte d'Ivoire, pays hôte, affronte le champion en titre le Sénégal au stade Charles Kouna Bani de Yamoussoukro. En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur par intérim des éléphants Emers Faye estime que ses joueurs ont toutes leurs chances de se qualifier pour le tour suivant.
Je pense que si on avait demandé aux Sénégalais quelle équipe voulait jouer en huitième de finale, pour une équipe qui a gagné ses trois premiers matchs et qui a fait un parcours sans faute jusqu'à aujourd'hui, ils auraient demandé un autre meilleur troisième que la Côte d'Ivoire. Donc je pense que l'ascendant psychologique, ce sera du 50-50. Les deux équipes sont sûres de leur force. Maintenant, il y a une équipe qui revient de loin, nous, et il y a une équipe qui est très très bien rentrée dans sa compétition. Mais comme vous l'avez dit au début aussi, les compteurs seront remis à zéro demain. C'est une nouvelle compétition qui commence, cette fois-ci à élimination directe. Donc la pression sera dans les deux camps.
Emers Faye, sélectionneur par intérim de la Côte d'Ivoire. En face, le coach du Sénégal, Aliou Cissé, dit s'attendre à un environnement difficile, insistant que ces trois victoires en trois matchs de poule relèvent désormais du passé.
Je crois que les statistiques sont là. Je n'ai pas en main la possibilité de les changer. Je ne pourrais pas changer le passé avec tout ce qui s'est passé contre la Côte d'Ivoire. Je l'ai toujours dit, nous sommes dans le présent. Le passé, c'est le passé. Le futur, il n'y a rien de sûr à ça. Aujourd'hui, on est focus sur ces huitièmes de finale. Certes, le Sénégal a fait un bon début, mais tout ça, comme je le dis, demain, ça n'aura pas d'importance. Ça sera derrière nous.
Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal. Deux affiches des quarts de finale sont connues. La République démocratique du Congo va affronter la Guinée le 3 février. En effet, hier, en huitième de finale, le Syrie national s'est imposé devant le Nzalang national au stade Alassane Ouattara. 1-0, un but signé Bayo à la 98e minute de jeu, suffisant au bonheur des fans guinéens qui ont pris d'assaut les gradins du stade d'Ebempe.
Les peuples de Guinée, aujourd'hui la victoire c'est pour les Guinéens, c'est pour la Guinée. Ils ont réalisé, on a marqué la Guinée équatoriale. C'est nous les Guinéens, nous sommes fiers d'être Guinéens.
Vraiment, aujourd'hui, c'est la joie. On a vengé notre voisin, la Côte d'Ivoire. On a montré que Guinée-Conakry est fort.
Je suis un artiste, donc je vais faire freestyle pour la Guinée. Allez, vas-y, Sili de Guinée, ramenez la coupe à la maison. Non, on veut la coupe seulement, rien que la coupe. Tous les belles filles sommes à vous. Voilà, bien, on va jamais jalouser. Allez, vas-y, Sili national, cette fois-ci, c'est pour la Guinée. C'est la Guinée qui gagne, mais c'est l'Afrique qui gagne. Veuillez Afrique, big up.
Je le disais, la Guinée va affronter la RDC qui est venue à bout de l'Égypte au tir au but après un score d'un but partout à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Notre envoyé spécial à San Pedro, Amin Birouk, a suivi cette rencontre.
L'attente des Congolais était longue. Elle a duré 50 ans entre le dernier succès des Léopards devant l'Égypte en phase finale de la CAN et cette qualification pour les quarts de finale de l'édition qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire. À l'époque, les coéquipiers de Kidumu avaient damé le pion à ceux de Hassan Chahata en demi-finale, 3-2 après prolongation. Un demi-siècle plus tard, les hommes de Sébastien de Sabre ont dû attendre la fatidique séance des tirs au but pour forcer leur destin. Globalement, ils ont été plus entreprenants que les Égyptiens, avec notamment un Meshak intenable sur son côté droit. Leurs efforts étaient d'ailleurs récompensés à la 37e minute via Wissa. Mais les pharaons ont la notion de compétitivité dans leur ADN, comme le prouve l'égalisation obtenue sur pénalty avant la pause par le Nantais Mustapha Mohamed. Après le repos, les joueurs de la RDC continuent à pousser, mais en vain, face à un adversaire bien retranché en défense. Les prolongations ne changeaient rien à la donne, en dépit de l'expulsion du défenseur de Pyramids Aboul Foutour. Les tirs au but devaient donc départager les deux sélections et donner un sens à l'histoire des confrontations entre les deux pays. Soit elle mettait fin à la malédiction congolaise, ou elle confirmait la supériorité égyptienne. Visiblement, l'adresse et le sang-froid étaient cette fois-ci du côté des coéquipiers de Mbemba, qui l'emportaient par 9 tentatives à 8. L'Égypte quitte la CAN par la petite porte. Désormais, les chances du football d'Afrique du Nord se limitent au seul Maroc, qui sera opposé mardi prochain à l'Afrique du Sud. La RDC, quant à elle, retrouvera en quart de finale la Guinée dans un duel vintage entre deux pays qui ont marqué la Coupe d'Afrique des Nations dans les années 70 du siècle dernier. Depuis San Pedro, Amine Birouk pour la VO Afrique.
Merci Amine. Bien avant RDC-Guinée, le premier quart de finale mettra aux prises le vendredi 2 février le Nigeria vainqueur du Cameroun 2-0 et l'Angola qui a battu la Namibie 3-0 en huitième de finale. Yacouba Ouidraogo, Bagassi Koura, Abidjan, pour VOA Afrique.
Je vous le disais en titre, les régimes militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont fait état hier du retrait sans délai de leur pays de la CEDEAO. Réagissant dans un communiqué, la commission de l'organisation sous-régionale réaffirme l'importance de ses trois membres et dit attendre encore une notification formelle et directe de cette décision. Le point avec Abdourahman Dia.
La commission de la CEDEAO a été informée d'une annonce de retrait de l'organisation par le Burkina Faso, le Mali et le Niger via les télévisions nationales. Aucune notification formelle n'a été reçue selon elle. Néanmoins, l'organisation réaffirme son engagement à trouver une solution négociée à la crise politique après le retrait annoncé. Les trois États sahéliens justifient cette décision par la souveraineté nationale, répondant aux attentes de leur population. Ces régimes militaires critiquent ce qu'ils appellent l'instrumentalisation de la CEDEAO par la France et disent que la CEDEAO n'a pas suffisamment soutenu leur lutte contre les djihadistes depuis 2012. La mise en œuvre du retrait suscite des interrogations. Le traité de la CEDEAO prévoit un délai d'un an pour un retrait formel avec la possibilité de révoquer la demande pendant cette période. Cette décision, diffusée sur les médias d'État, représente un acte de rupture aux conséquences potentiellement graves, notamment des impacts sur la circulation des biens et des personnes, les exemptions de visa et les exonérations de taxes.
Et après l'annonce du Burkina, du Mali et du Niger, un rassemblement a eu lieu à Niamey en guise de soutien au retrait. Des pancartes anti-CEDEAO ont été brandies, tout comme des drapeaux des trois pays, mais aussi de la Russie, nouvelle alliée des régimes militaires du Sahel, après le départ contraint de la France. De la capitale nigérienne, la correspondance d'Abdoul Razak Idrissa.
Quelques heures après l'annonce, des centaines de partisans des nouvelles autorités se sont retrouvés à la place de la concertation de Niamey pour saluer la décision et réaffirmer leur soutien aux militaires.
Pour nous, le dimanche 28 janvier 2024 est une date historique, une date de joie. Bravo, chapeau aux dirigeants de l'AES pour ce cadeau du siècle qu'ils nous ont donné. Et maintenant, ce qui nous reste, ce qu'on demande, c'est quitter l'Imoa.
À côté, il y a ceux qui s'interrogent sur les conséquences de cette décision.
Je pense bien que c'est une décision aujourd'hui qui laisse ces pays-là
ou qui pourrait exposer ces pays à des conséquences extrêmement graves. Puisque vous, si vous prenez le cas du Niger, quand même, c'est un pays qui échange énormément, je dirais pour l'essentiel, avec le Bénin et le Nigeria. Il faut s'attendre à un lendemain difficile pour les populations nigériennes.
Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Des responsables de l'Église catholique de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi ont célébré hier à Goma une messe pour la paix, mais des affrontements ont repris peu après autour de la ville. Davantage avec Jean-Roger Bion.
Plusieurs milliers de fidèles et d'habitants ont assisté à cet événement. Le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a tenu un discours critique à l'encontre des dirigeants congolais, rwandais et burundais. Il les accuse d'inciter la population à la division et au conflit et affirme que certains d'entre eux ont intérêt à ce que le conflit continue afin de poursuivre leurs intérêts égoïstes. Le cardinal Ambongo a souligné la responsabilité du gouvernement de Kinshasa qui, selon lui, n'arrive pas à mettre de l'ordre à nos frontières et à qui échappe le contrôle d'une bonne partie de l'Est du pays. Son discours de près de 40 minutes s'est focalisé sur des problématiques politiques et sécuritaires et a été salué par des salves d'applaudissements. Peu après la fin de la célébration religieuse, des détonations d'artillerie ont commencé à résonner dans la ville, près de Sake, à la sortie ouest de Goma.
L'Ordre des avocats du Cameroun a réclamé cette semaine l'ouverture d'une enquête par le parquet après que plusieurs dizaines de témoignages de femmes se disant victimes d'agressions sexuelles par un homme d'affaires du pays ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Les détails avec Alexandrine Rolognon.
Dans une lettre adressée jeudi au parquet, la Commission des droits de l'homme du barreau a signalé des cas présumés d'agressions sexuelles, harcèlement, viol, menaces, séquestrations et violences envers plusieurs victimes, découvertes via les réseaux sociaux et des témoignages anonymes. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille salue cette démarche, encourage les victimes à briser le silence et à fournir aux autorités judiciaires les éléments nécessaires pour établir les faits. Néanmoins, la Commission des droits de l'homme du Cameroun regrette son incapacité à traiter cette affaire de manière adéquate en raison de l'anonymat des dénonciations. Depuis mi-janvier, plus de 70 témoignages anonymes accusent un même homme d'affaires d'agression sexuelle. Des activistes se sont rassemblés à Douala, exprimant leur soutien, et une lettre ouverte signée par 22 femmes de la société civile dénonce l'inaction du gouvernement dans les cas de violences faites aux femmes. L'initiative invite également les services concernés à se constituer partie civile, notamment dans le cadre de cette affaire.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Trois militaires américains ont été tués et plus de 30 blessés dans une attaque au drone en Jordanie. Le président Joe Biden a promis de répliquer en pointant des groupes pro-Iran. Nous allons répondre, a-t-il déclaré en marge d'un déplacement en Caroline du Sud hier. Eric Manirakidza a préparé ceci.
C'est la première fois que des soldats américains sont tués au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Joe Biden a affirmé qu'à ce stade, je cite, « Nous savons que cela a été mené par un groupe de combattants radicaux pro-Iran opérant en Syrie et en Irak. N'ayez aucun doute, nous allons faire rendre des comptes à tous les responsables, au moment et de la manière que nous voulons », a-t-il dit le ton menaçant. Le président américain s'est entretenu de la situation avec sa vice-présidente Kamala Harris. Elle est chef de la diplomatie, du Pentagone et de la CIA notamment, a fait savoir la Maison-Blanche. Depuis la mi-octobre, plus de 150 frappes de drones ou tirs de roquettes ont visé les soldats américains et ceux de la coalition en Irak et en Syrie. Washington a répondu par des frappes ciblées en Irak, mais ces attaques sont demeurées pour l'instant contenues. L'Iran et les États-Unis ayant répété ne pas souhaiter un embrasement régional.
Pour sa part, la Jordanie a fustigé cette attaque au drone contre des troupes américaines qui, selon elle, coopèrent avec Amman pour affronter le terrorisme et pour sécuriser la frontière. L'attaque a également été condamnée par l'Égypte, Bahreïn et le Royaume-Uni, dont le chef de la diplomatie, David Cameron, a appelé l'Iran à la désescalade dans la région, ce qui a fait réagir à Téhéran, qui dit réfuter sa mise en cause. Ces accusations sont faites dans un but politique visant à inverser les réalités de la région, déclare le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué diffusé aujourd'hui.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Un grand merci de votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, Jacques Aristide toujours au micro. Il est l'heure maintenant de vous proposer la tranche magazine. Nous vous le disions il y a quelques minutes, les régimes militaires au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont fait part hier du retrait sans délai de leur pays du bloc ouest africain de la CEDEAO, une décision décrite comme un nouvel acte de rupture aux conséquences pratiques potentiellement lourdes. Les trois États, regroupés depuis septembre de l'année dernière au sein de l'Alliance des États du Sahel, accuse l'organisation de ne pas les avoir aidés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Comment réagit-on à Bamako? Le reportage de Mohamed Danioko, notre correspondant dans la capitale malienne.
Les sanctions de la CEDEAO contre les autorités militaires du Mali, du Burkina Faso et du Niger, tous issus de putsch, est une pilule qui a du mal à passer auprès de ces autorités qui ont récemment créé l'Alliance des États du Sahel. Dans son communiqué conjoint de retrait sans délai de la CEDEAO, l'AES est revenue sur les sanctions qualifiées par elle d'illégitimes, d'illégales et d'inhumaines. Pour Boubacar Bokoum, président du Parti africain de l'intégration et de la souveraineté, cette décision est salutaire à plus d'un titre.
Avec une très grande fierté, une satisfaction totale qu'au niveau du Parti africain pour l'intégration et la souveraineté, que nous prenons acte et encourageons les autorités dans cette démarche.
Si le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Agui Boubouaré, reconnaît que la CEDEAO a des insuffisances, il cite aussi ses avantages. Raison pour laquelle il fallait, selon lui, rester au lieu de se retirer, comme vient de le faire l'AES.
Au-delà des insuffisances de la CEDEAO, il y a beaucoup d'avantages que nous tirons de cette organisation sous-régionale qui est enviée dans beaucoup d'endroits du monde. Il y a même des pays, pas le moindre, qui frappent à sa porte.
Dans la même logique que celle contenue dans le communiqué conjoint de l'AES, l'analyste des questions sécuritaires, le docteur Paul Oula, pointe du doigt l'incapacité de la CEDEAO à voler au secours des pays sahéliens dans leur lutte contre le terrorisme.
Cette décision est une réponse à la CEDEAO qui est restée à fond face aux cris de détresse de ces trois pays qui avaient besoin et qui avaient demandé l'aide de la CEDEAO, notamment pour endiguer le phénomène de l'insécurité. Alors aujourd'hui, cette décision prouve à suffisance que ces trois pays veulent prendre leur destin en main.
Après cette décision, il faudrait pour les États de l'AIS penser à la mise en place rapide d'un plan Marshall pour éviter d'éventuelles conséquences, suggère l'économiste Omar Bitibali.
Je pense qu'il faudrait essayer de s'entendre et mettre un plan Marshall avec nos partenaires, nos nouveaux partenaires pour pouvoir développer sereinement ce pays-là.
La CEDEAO, dans un communiqué, dit n'avoir pas encore été saisie officiellement par les trois États, mais d'y chercher une solution diplomatique à la question. Mohamed Danioko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Dans la région orientale de la République démocratique du Congo, les atrocités de la guerre sont l'une des principales causes de troubles mentaux chez une bonne partie de la population. Pour éradiquer ce fléau, les organisations humanitaires se sont données pour mission d'apporter un soutien psychosocial aux personnes déplacées. Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma, nous a fait parvenir ce reportage.
Sur le site des déplacés de Chabindou, à l'ouest de la ville de Goma, des dizaines de personnes déplacées sont reçues dans des tentes érigées par Médecins Sans Frontières où elles participent à des séances d'écoute avec des psychologues pour une prise en charge psychosociale. Rosine Nyamahama est l'une des femmes prises en charge depuis plus d'un mois. Elle révèle que ces crises psychologiques ont été causées par la situation des guerres.
Nous avons fui notre village. Pendant notre fuite, nos enfants se sont perdus, mon mari est mort et les autres membres de la famille étaient introuvables. Nous avons fui vers Goma. La situation m'a perturbée et nous sommes restés ici avec la peur au ventre jusqu'à aujourd'hui. Une personne déplacée n'a pas de joie et vit dans la peur. Il est normal qu'une personne déplacée ait des troubles mentaux puisqu'elle a abandonné ses champs, son bétail pour venir dans ces camps de Goma sans rien du tout.
Rosine se rétablit progressivement grâce à la prise en charge psychosociale dont elle bénéficie. Mais ce n'est pas le privilège de beaucoup d'autres personnes déplacées qui n'ont pas encore été prises en charge. Amani Eugénie, membre du comité des personnes déplacées du camp de Lushagala, souligne que le nombre des cas de troubles mentaux ne cesse d'augmenter et que le besoin de soutien psychosocial devient urgent.
La plupart des personnes déplacées sont traumatisées. Elles ont tellement peur de tout ce qui se passe autour d'elles que la plupart du temps, lorsqu'on les regarde, elles ont tendance à fuir. D'autres se contentent de fixer quelque chose sans rien dire. C'est ainsi qu'ils arrivent dans les camps. Ils ont un problème psychologique. D'ailleurs, je pense que pour qu'ils s'en sortent, c'est un long processus.
Jurlas Moulekia, psychologue clinicien qui travaille pour Médecins Sans Frontières, affirme également que les soutiens d'assistance est criant, même si des efforts sont déjà faits par certaines organisations.
La plus grande partie, les gens présentent les problèmes d'anxiété, ils présentent aussi des problèmes, tous des troubles post-traumatiques, des troubles liés à des traumatismes. Journalièrement, on fait trois groupes, trois sessions de groupe. Donc dans les trois sessions de groupe, comme on prend 10 par groupe, donc nous sommes dans une moyenne de 30 personnes la journée. À un moment donné, on sera submergé. Si ça continue comme ça, on pourra peut-être avoir besoin d'élargir encore les activités.
De nombreuses personnes prises en charge sont des femmes qui non seulement subissent le préve de la vie dans les camps des déplacés, mais sont également victimes de violences sexuelles, une situation qui les rend beaucoup plus vulnérables que les hommes. Zanem Netizaidi pour VOA Afrique, Goma.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Au Cameroun, le gouvernement vient de fixer les objectifs à atteindre sur le plan énergétique et de la production minière en cette année 2024. Ces deux derniers mois, l'offre énergétique a cruellement fait défaut dans plusieurs grandes agglomérations et dans des endroits reculés du pays. Un chronogramme pour la mise en service d'un important barrage hydroélectrique et pour le démarrage de la production dans les grands chantiers miniers du pays vient d'être arrêté par le gouvernement, nous rapporte depuis Yaoundé notre correspondant Emmanuel Julenta.
De nombreux Camerounais peinent à regarder les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de football en raison de coupures intempestives du courant électrique, alors que le pays compte 6 grands barrages hydroélectriques et une centrale électrique d'une capacité de 201 MW. Ces deux habitants de Yaoundé, la capitale, expriment leur désarroi.
La dernière fois que les Lions ont joué, il n'y avait pas, mais c'est revenu après. Il y a trop de stress, vu qu'on a peur de rentrer. Je souhaite vraiment que le gouvernement essaie de mettre certaines mesures sur place pour que tout le monde puisse savoir.
Si on ne supporte pas, ça sera autre chose. Il pourrait y avoir des casses. De temps en temps, ça passe, ça coupe, ça passe, ça vient. Bon, franchement, nous ne sommes pas sûrs.
À 70 km au nord-est de Yaoundé, le Cameroun y construit un barrage de 420 MW de puissance. Les travaux ont débuté en 2019. Face au déficit énergétique, le gouvernement a instruit l'entrée en production de la première machine. Gaston Elungwe Somba, ministre de l'eau et de l'énergie.
Les tests de fonctionnement de la première machine ont démarré en décembre. Ces tests sont en train de se poursuivre. La mise en production de la première machine Natchigal est programmée pour le 24 février 2024. Et les Camerounais, notamment ceux de la ville de Yaoundé, déjà vont recevoir les premiers mégawatts de Natchigal.
Trois grands projets d'exploitation du fer à Kribi et Grand Zambie dans la région du Sud, Mbalam dans la région de l'Est, ont été annoncés depuis le 31 décembre 2022. Deux ans après, le gouvernement exige des dates de production. Fougalatus Gentry, ministre des Mines, de l'Industrie et du développement technologique par intérim.
En termes de date de production, je pense que le fer de Mbalam, par exemple, va avoir le premier bateau de fer pour exportation cette année. Même chose pour Grand Zambie et pour Sinosteel en 2025.
Les infrastructures de transport ferroviaire sont requises pour faciliter l'évacuation de la production minière du pays. Jean-Ernest Bibéé, ministre des Transports.
Nous avons opté pour le transport de chemin de fer. Ce transport-là va nécessiter l'investissement, l'exploitation et l'équipement de 540 km de voies ferrées entre Mbalam et Kribi. Il faudra bien évacuer ces minerais. Et l'option qui a été retenue, c'est la construction d'un terminal minéralier au port en eau profonde de Kribi.
La production de la mine de fer de Kribi devrait procurer plus de 22 milliards de francs CFA par an au Cameroun, tandis que la mise en service du barrage hydroélectrique de Nactigal va accroître 30% de la production d'électricité du pays. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Libreville, la capitale du Gabon, veut se doter d'un nouveau visage, plus ordonné et esthétique. Pour atteindre cet objectif, les autorités vont en guerre contre l'occupation anarchique de l'espace public. Longtemps battu sur son propre terrain par des actions inciviques, l'hôtel de ville de la capitale gabonaise vient de donner le coup d'envoi d'une opération dite « restauration de l'ordre urbain ». Les contrevenants à la loi sont passibles de lourdes amendes et de fermeture de leurs activités. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
C'est une opération coup de poing qui mobilise des engins du génie militaire, notamment dans le viseur de la brigade municipale, commerce et garage anarchique installés sur le domaine communal. Raoul Lassitati, maire adjoint du 3e arrondissement de Libreville.
On n'est plus au stade de négociation, messieurs. Nous constatons l'infraction. Même un enfant à 4 ans, quand on lui parle, 5 ans après, il a 9 ans. Alors aujourd'hui, on frappe.
Pour les autorités municipales, il s'agit de frapper fort. Restaurer l'ordre urbain ici et maintenant. Murs de concession et véhicules empiétant l'espace public sont tagués. L'hôtel de ville marque son territoire, mais non sans quelques incompréhensions sur le terrain. Adamo, chauffeur de taxi, passé au mauvais endroit au mauvais moment.
Je suis venu juste pour voir un ami à qui on a souvent compte, souvent les pièces. Au moment où je suis entré pour voir faire sortir ma voiture, c'est à l'instant que les gens de la mairie sont arrivés. Il y avait moins 2-4 voitures devant moi. J'étais au volant, au niveau du volant de ma voiture, voilà, à clé de ma voiture. Et là, voilà, garé là. À ce moment, l'agent de la mairie doit tacler. Je lui dis, mais comment vous taclez une voiture alors que je suis dedans?
Ce désencombrement des voies et trottoirs atteint les bidonvilles et n'épargne personne, y compris les corps habillés.
Il faut que ce véhicule soit traqué immédiatement pour libérer le domaine communal. C'est un garage en action. Je ne fais pas d'exception en série.
Deux semaines après son lancement, le succès du début de l'opération ne résiste pas au retour d'anciennes pratiques. Plusieurs commerçantes comme Laetitia ont très vite réinvesti le trottoir au marché de Venevoir.
On est assis par passant, on fait l'enlever. Si on vend deux minutes, s'ils arrivent là, si tu as la malchance qu'on t'attrape ta marchandise, on gaspille.
Une résistance qui s'organise au nom de la survie des commerçants d'ici et d'ailleurs. Pourtant, la municipalité de Libreville l'assure. Un plan de relocalisation des victimes de l'opération prévoit plus de 1500 étals inoccupés dans les marchés agréés. Derrière cette démarche, il y a l'objectif de faire appliquer les normes urbaines dans l'organisation des activités commerciales à Libreville. Le général de brigade, Gilles Ibrahim Rapo-Tchombo, délégué spécial de Libreville.
Imaginez bien qu'avec ce qui se passe, il arrive que les voies soient tellement encombrées que ça peut poser même des accidents. In fine, c'est revoir tout simplement l'embellissement du domaine communal.
L'hôtel de ville de Libreville se fixe un délai de 6 mois pour venir à bout de l'anarchie dans la capitale gabonaise. Ismaël Obiangze pour VOA Afrique, Libreville.
Et voilà, c'est ici que nous allons clore le Monde aujourd'hui, édition matinale du lundi 29 janvier 2024. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sagnou, à la technique Kelvin Fowler. Merci chers amis fidèles de la VOA de nous avoir accueillis chez vous ce matin. Jacques Aristide depuis la capitale américaine, je vous souhaite une très belle journée et une excellente semaine. S'il vous plaît, prenez bien soin de vous et des autres aussi. À très bientôt. Au revoir.